courrier de recherche dans lequel on fait ma thèse, moi en écologie, Adrien en anthropologie. Et ici, on va montrer un peu les dialogues interdisciplinaires qu'on a eu cette année-là pour comprendre un peu les communs pastoraux dans le sud-est de l'Espagne. Premièrement, comme on a vu un peu ce matin, je vais passer brièvement ici, mais on sait que les usages coutumières des ressources façonnent la manière dans laquelle les communautés locales, notamment, ont des rapports avec l'environnement. Et ces usages coutumières aussi façonnent aussi la culture, les cosmovisions des communautés locales. Et Jardin, dans les vocales là, qui c'était un peu une allégorie, sans base un peu scientifique, on va dire, a dit que cet usage-là peut donner une tragédie des communs, mais une des réponses historiques, c'est Léo Strong qui a montré qu'il y a plusieurs communautés locales qui ont arrivé à gérer la ressource qu'ils dépendent, et ils ont utilisé la ressource d'une manière durable dans le temps. Et le commun peut être vu comme un objet au-delà des natures et cultures, parce qu'il y a des processus sociaux et écologiques qui sont étroitement liés. Et pour cela, dans les votes aussi de ces projets, c'est dépasser un peu les frontières des sciences dites naturelles et sociales pour essayer de comprendre en commun, dans son cas particulier, au sud de l'Espagne. Un peu rapidement, je vais montrer un peu des typologies des communs. On a les communs marins, et notamment les cas de la pêcherie des homards dans les Maine aux États-Unis, qui c'était un des cas iconiques qui a décrit Ostrom. Et là, on voit comment les communautés de pêcheurs, à travers des conseils de pêcheurs, ils sont arrivés à gérer la communauté et les acteurs sociaux, les pêcheurs, pour exploiter la ressource de manière durable. Aussi, on peut passer à les terres communales. Là, toutes les ressources qui vont être gérées de manière collective, ça peut être les bois, les cultures communales, les moutons, les pâturages, qui c'est le cas qu'il y a beaucoup de communales au nord et ouest de l'Espagne, en Galice. Et là, c'est des associations de voisins qui gèrent de manière collective la ressource. On peut avoir des communs plutôt spécifiques, comme c'est le cas de cette présentation, c'est des communs pastoraux, et la ressource, là, ça va être les pâturages.
Alors, je vais vous présenter notre zone d'étude. Bon, notre zone d'étude se localise dans le sud-est de l'Espagne, en Andalousie, où il y a trois communautés de bergers qui partagent la même zone de pâturage. Donc, sont trois communautés de bergers, dues de ces trois communautés appartenant à la commune de Santiago Pontones, dans la province de Jaén, et l'autre à Castri, dans la province de Canal. Donc, le régime foncier de la propriété la propriété foncière de la terre a changé pendant le temps, en passant à être de propriété jusqu'à aujourd'hui. Propriété publique de l'État ou de la mairie, ou de terres privées. Alors, il y a la communauté de bergers qui gère la zone de pâturage, même si le régime foncier est privé public, la gestion des alpages, des pâturages sont gérés de manière collective par une association de bergers. Alors ici, il y a l'acte juridique de 1893 à Castries, donc qui formalise les droits d'usage collectifs par les communautés locales. Alors, sur sa carte, on peut voir les différentes unités pastorales, c'est-à-dire c'est la zone des alpages qu'utilise chaque berger. Pour vous expliquer quelques caractéristiques principales de la zone de tout. Presque toute la communauté de bergers est composée par hommes, mais il y a des femmes qui appuient les bergers de manière ponctuelle. Par exemple, pendant la saison reproductive des moutons et aussi pendant la transhumance. Alors, on voit aussi des différences. Parce qu'il y a des bergers qui ont plusieurs droits d'usage que d'autres. Pour finir ce diaporama, on a vu pendant notre terrain quelques difficultés actuelles Par exemple, là, c'est les hôtesses de les prix de l'essence, de les prix de la nourriture pour les bétail. Et là, c'est chaises aussi, je crois, qu'il y a un peu comme ça.
C'est chaises,
oui. Merci.
Bon, dans ces cadres-là, l'objectif du projet de recherche dans lequel on fait partie, c'est de contribuer un peu au débat actuel autour des limites, des potentialités des communs pastoraux pour la gouvernance des ressources naturelles. Et les objectifs de cette présentation-là, que vous entendez maintenant, c'est comment faire dialoguer différentes approches pour comprendre les interactions, feedback, entre pratiques, usages coutumières, la biodiversité à Castille-Saint-Pierre-Pontonnes, et aussi comment matérialiser ces approches sur le terrain afin d'éclairer les perspectives théoriques et les leçons pratiques pour un travail interdisciplinaire sur le terrain. Premièrement, comme cadre théorique, on a les Social Ecological System Framework, développé par Astrom et collaborateurs. Et ici, dans ces cadres théoriques, les corps, c'est une action d'appropriation, focal action situation. Dans ces cas-là, ça va être l'appropriation d'une ressource commune, dans notre cas, les pâturages. Aux alentours de cette action, on a la unité des ressources, les pâturages. On a des systèmes de ressources qui sont tous les processus biophysiques, par exemple le climat, et par exemple et les conditions d'eau, de sol, mais aussi des variables techniques, des infrastructures, par exemple des vergers pour exploiter la ressource pour utiliser par exemple. On aura les acteurs qui participent de manière directe et indirecte dans l'action d'appropriation de la ressource, et on aura une gouvernance qui met les règles et régule. Et l'activité des acteurs. Ces gouvernances peuvent être au niveau local, l'association des vergers dans notre cas, ou au niveau national ou régional. Et aussi, par exemple, ici, la politique agricole commune a beaucoup d'impact dans la manière dans laquelle les acteurs font les pâturages. Et on arrive sur le terrain avec des variables clés à regarder qui sont les mêmes décrites dans différents papiers d'Ostrom. C'est par exemple pour avoir la clarté, les limites des systèmes de ressources. Savoir un peu la distribution spatiale ou temporelle de la unité des ressources, mais aussi comprendre s'il y a des règles et si les règles sont respectées par les acteurs, et combien d'acteurs il y a, si c'est open access par exemple, ou s'il y a beaucoup d'acteurs qui entrent dans une année, ou s'il n'y a pas trop de monde. Qui c'est souvent le cas parce que les règles sont très vieux ici. Moi, en tant qu'écologue, je vais me focaliser sur l'unité des ressources, ici les pâturages, et alors la communauté végétale. On se demande par exemple quelles sont les plantes les plus appétantes pour les moutons, pour les chèvres. On va se demander par exemple la biomasse ou les pics de croissance dans l'année. Et on peut se demander aussi quels sont les effets des pratiques et la manière dans laquelle les vergers gèrent les terres de parcours. Mais là, par exemple, moi, en tant qu'écologue, je n'aurai pas les outils les théoriques et pratiques pour comprendre un peu comment les acteurs font et comment sont les mesures qu'ils sont développées au cours du temps. Et pour cela, on a besoin d'Adrien, là, embauché.
Alors, pour mettre en contexte, ce projet, c'est la combinaison des autres projets derniers avec une approche anthropologique aussi. Donc, on a pu réutiliser ces données pour notre projet actuel. Donc, je vais faire une définition générale de l'objectif principal de l'ethnographie, c'était de comprendre d'une manière très précise comment les vergers gèrent ces troupeaux, quelles sont les règles qu'ils font entre eux, et quelle est la collaboration. Alors, pour ça, Santiago Marie, que c'est une stéréotype, que elle est là aussi, nous avons partagé un terrain de presque 100 mois. On a fait de l'observation de nos participants pour voir les événements typiques locaux. Par exemple, ça c'est une festivité religieuse locale, et l'autre c'est des autres festivités. Aussi religieux, mais avec une pratique avec des animaux. La seconde, s'il vous plaît. Aussi, on a fait de l'observation participante. La première photo, c'était. On a fait une journée entière avec la communauté locale. C'est une journée très importante pour eux. Donc on a pu partager avec les bergers, mais aussi avec toute la communauté locale. Et la deuxième photo, c'était une photo de la transhumance qu'on a fait. Et il y a presque 2600 moutons dans cette photo. Et on a fait de la transhumance avec les bergers Pedra José. Donc, c'est habituel qu'il y a des bergers qui font la transhumance pendant presque 10 jours, mais aussi il y a des autres qui font la transhumance entre un ou deux journées. Mais pour finir, il y a les entretiens, on a fait les entretiens pour bien connaître le contexte historique local, et pour connaître aussi les expériences que les personnes qu'on a enquêtées ont vécues. Dans cette photo, on a enquêté un ancien berger qui est déjà à la retraite. Donc, on était trois personnes là, mais ça, c'était très intéressant pour nous.
Et concrètement, comment s'est passée notre collaboration? On s'est levé tôt le matin parce que les bergers se lèvent tôt. Mais on allait directement au bar parce que là, c'était l'endroit où c'était tous les bergers. On est arrivé souvent à 7h, 7h30 du matin. Et c'était tous là, ils criaient, ils nous parlaient parfois non. Et là, on essayait de se donner rendez-vous sur les alpages, sur les terres de parcours. Et ça marchait, la plupart, ça n'a pas marché. Mais quand ça marchait, ça nous aidait à spatialiser les terrains. Là, on était avec un berger sur les alpages. Et ça nous aidait beaucoup à connaître tous les toponymies, la topographie selon eux, spatialiser où ils sont aussi. Et avec beaucoup des années, les projets auparavant, comme a dit Adria, et notre terrain cette année, à peu près 5 mois, on est arrivé à spatialiser à peu près 50 bergers sur les alpages. Ces limites ne sont pas officielles. C'est des limites qu'ils se mettent, d'accord, mais on ne peut pas les lire. Il n'y a pas de publication par rapport à ça. Et c'est un sujet sensible aussi par rapport au droit d'usage lié à la politique agricole commune. Mais c'est ça. Et ça m'a permis à moi de faire les relevés floristiques. On a fait des relevés linéaires, c'est-à-dire on a vu toutes les plantes qu'il y a tous les 10 cm dans une ligne de 10 mètres. Et là, ça nous donne une idée de l'abondance de chaque espèce de la communauté végétale pour après faire, par exemple, des inférences au niveau de quelles sont les plantes qui sont plus croissantes et ça peut être lié à quelques pratiques pastorales. Pour le moment, les résultats de notre collaboration sont plus directs pour moi parce que j'ai pris des données qui sont la conséquence logique de ce qu'on a fait au bar quand on était avec les bergers pour spatialiser les unités pastorales. Et ça m'a permis aussi de connaître les pratiques des bergers qui vont être dans mes modèles statistiques et les variables explicatives grâce auxquelles on pourrait expliquer les plantes d'ombre. Et ça, on espère avoir des jolies des corrélations significatives, on ne sait pas encore. Mais ces pratiques des bergers peuvent être de type des troupeaux, s'ils sont des moutons ou chèvres, dans quelle proportion, parce que parfois c'est mixte. Aussi, on a une idée de conduite des troupeaux. On a vu beaucoup de troupeaux qui étaient seuls, mais il y avait aussi des bergers qui accompagnaient beaucoup les troupeaux. On a une idée aussi des charges pastorales, combien de bétail il y a par hectare. Et aussi les périodes d'utilisation des parcours. Il y a beaucoup de diversité là. Comme a dit Adria, il y a des bergers qui font la longue transhumance qui dure à peu près 10 jours. Et ils arrivent très tard. Et les premiers jours de juin, ils sont aux alpages. Mais ceux qui font une transhumance plus courte, ils sont avant. Et on a l'hypothèse que cette différence, par exemple, pourrait jouer au niveau de la communauté végétale. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer, ou essayer de donner des éclairages par rapport aux différentes pratiques pastorales. Et ça peut nous donner une idée de la durabilité de ces pratiques en dégradant les plantes. Mais toutes les pratiques, ça aurait été impossible de les connaître, les repérer sans la partie ethnographique, comme on a dit.
Donc pour les limites de la collaboration qu'on a trouvée, le premier point, c'est Santiago comme écologue, le temps qu'il a besoin, c'est plus court que le temps que je vais utiliser pendant mon terrain. Les collègues de données, c'est plus rapide en écologie qu'en anthropologie. l'analyse de l'eau aussi, surtout rapide en écologie. Donc ça, c'est le premier point qu'on a trouvé. Le deuxième point, c'est les différentes formations qui peuvent affecter les terrains. Pour expliquer ça, c'est un peu difficile, mais pour aborder un anthropologue, peut aborder une situation qui peut finir, qui peut, je ne sais pas comment dire ça, qui complique.
Finir mal.
Oui, qui peut finir mal. Un anthropologue peut avoir les outils pour aborder une situation comme ça, peut diriger une conversation ou mettre fin à une conversation. Donc on a identifié, j'essaie d'expliquer ça. Si tu n'as pas des outils pour affronter ce type de situation, ça peut rendre difficile la démarche de la recherche. Alors, le point suivant, c'est les différents effets de faire l'endographie seule ou en groupe. On a fait l'endographie quand on était trois personnes au bar pendant le matin. On a identifié, on a constaté que les effets étaient surtout négatifs parce que les échanges étaient les échanges avec les bergers étaient plus courts. Alors, quand on a fait de la transhumance avec les bergers, on s'est réparti le travail. Il y avait une ou deux personnes qui peuvent parler avec les bergers, pendant que l'autre, la troisième personne, a pu observer la situation, comment tout s'est passé. La suivante, pour finir. Alors, quelques réflexions. On a réussi à identifier combien de personnes nous devions être selon les différentes situations. On a réussi à identifier que chaque matin, on devrait être une personne au bar, par exemple. Et des échanges aussi pour aborder des sujets sensibles aux conversations auprès des bergers. Je ne sais pas bien comment expliquer ça, mais je ne sais comment l'avoir dit.
Bon, les sujets. Toi, en tant que catalan, c'est toujours sensible parce qu'il y a beaucoup de bergers qui sont très adroits.
Oui, il y avait des sujets qui sont très sensibles pour la communauté locale à discuter. Donc, il y avait des fois que tu ne pouvais pas parler de certains sujets, mais les personnes t'interpellent. Donc, tu dois avoir ce type d'outil pour gérer ce type de situation. Alors, chaque journée, à la fin de la journée, on a réfléchi, on a partagé sur comment faire, comment aborder ce type de situation.
Une dernière réflexion pratique. Moi, en tant qu'écologue, on a, comme on a dit déjà, souvent on fait des terrains plutôt courts, on fait une prise de données assez rapide, on fait des analyses et après on veut faire des propositions, des mesures de gestion par rapport à la ressource ici. Mais parfois on fait des propositions qui peuvent avoir des conséquences sociales, mais paradoxalement, on ne prend pas en compte de manière approfondie les modes de vie locaux. Et ça m'a touché beaucoup, le travail d'un action de 5 mois. À la fin, j'étais très fatigué, je voulais qu'elle revienne ici, mais je savais que ça faisait partie du jeu. Et ça aussi, ce genre de travail d'amoction nous apprend à voir qu'il y a des familles, il y a des personnes derrière les bergers, des petits, et aussi qu'ils font ça parfois depuis toujours. Tu ne peux pas arriver et dire non, il ne faut pas faire comme ça si tout vient d'arriver, par exemple. Et ça met en question un peu la démarche scientifique à nous. Mais il faut dire, bien sûr, qu'il y a des nouvelles branches, des nouvelles groupes scientifiques qui essayent de prendre en compte beaucoup plus, de manière plus approfondie, les modes de vie locaux, comme c'est aussi les cadres conceptuels des systèmes socio-écologiques. Un des buts, c'est, comme on a vu, de résoudre des problèmes de durabilité. Mais on voit quand même, et auprès de notre terrain, qui est dans ces cadres-là, il y a une sorte d'homogénéisation des unités de la partie sociale. Les acteurs font partie, par exemple, des institutions qui sont bien structurées, ils sont bien organisés. Peut-être des gens qui viennent des sciences sociales, c'est, bien sûr, ça c'est très faux, mais pour les gens qui appliquent beaucoup ces cadres-là, c'est pas très évident. Et il y a beaucoup de critiques qui viennent des groupes d'anthropologues, par exemple, qui mettent en évidence ces manques qu'il y a eu dans l'utilisation de ces cadres conceptuels. Et il met en avant, par exemple, la stratification sociale liée au genre, liée à la classe sociale, et ça va influencer beaucoup, beaucoup la manière dans laquelle les personnes interagissent entre eux et avec l'environnement. Par exemple, dans notre cas d'étude, comme Adrien a dit, on a des bergers qui ont plus de droits d'usage et alors qui reçoivent plus d'argent de la politique agricole que nous, par exemple, et ça génère parfois un peu des conflits, des contestations entre eux. Et aussi, on a beaucoup de sommes. On a booké un femme berger pendant 5 mois de terrain. Bon, c'était. Et ça, comme on a dit, il faudra les considérer de manière plus approfondie dans notre projet de recherche. Mais faisant, c'est qu'on a fait un peu une ethnographie holistique, incluant différentes disciplines pour essayer de comprendre les besoins matériels, les normes, la morale, les croyances et un peu les contextes historiques qui crée ou qui, dans les contextes historiques, qui opère des schèmes de la pratique, les schématisations de l'expérience, comme on est en pratique pastorale, il faudra les déconstruire, par exemple, il faudra les comprendre bien et dans quel contexte ces pratiques-là sont nées pour avoir, par exemple, des propositions plus contextualisées. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant ici et de proposer un effet synergique entre les cadres conceptuels des systèmes socio-écologiques et une ethnographie holistique pour proposer des éventuelles propositions qui pourraient favoriser les modes de vie locaux dans le contexte actuel des changements globaux. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était vraiment super. Les photos sont magnifiques. Voilà, donc on a 10 minutes de... Oui, Jeff. Bruno. C'est bon. Merci. Vas-y, Jeff.
Ok, merci les gars. Franchement, la présentation est admirable à plein d'enjeux. J'ai une question, le but c'est pas de faire du jugement. L'idée c'est que vous partez de l'idée de commun. Et en fait, vous êtes en train de créer un commun de recherche, quelque part. Et ce commun de recherche, moi j'aimerais vous entendre tous les deux, dans quelle manière il vous aide, ou pas, à construire votre problématique de recherche propre. Parce que j'imagine bien, vous le savez, que les thèses, on les souhaite tous interdisciplinaires, mais qu'en vrai, on vous dit, oui, mais de quelle chapelle tu parles ? Donc, comment, avec cette approche communautaire, communautariste, enfin, pas communautariste du tout, d'ailleurs, communautaire, sur un objet commun, ça vous aide, vous ? Alors, dans la présentation, on comprend bien comment Santiago, il peut orienter son terrain. Peut-être toi, Adria, comment ça t'aide à formuler une problématique de recherche plus en anthropologie en partant de ce terrain partagé?
Bruno, et après vous répondez aux deux questions.
Je me permets juste de poser ma question dans la foulée parce qu'elle reprend un peu celle que vient de poser Jeff. Est-ce que vous avez pu identifier sur le terrain des mesures mises en place par les bergers de protection de la ressource, justement, qui vous permettent de croiser vos problématiques, c'est-à-dire la problématique écologique et la problématique plutôt anthropo, fonctionnement de la communauté, etc. Je pense à des choses dont vous avez entendu parler par vos encadrants, l'AGDAL au Maroc. Vous avez justement une mesure de protection endogène avec des effets écologiques qui ont été largement documentés et étudiés. Et donc ça, c'est un objet qui permet justement de croiser un commun que vous essayez de tisser. Et l'autre point que je voulais juste soulever, c'est est-ce que vous questionnez aussi un petit peu la place économique de l'élevage dans les ménages que vous regardez sur vos terrains? Est-ce que ce sont des gens qui sont à 100% dans l'élevage? Est-ce que c'est des agropasteurs? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi la place des femmes? Vous montriez que les bergers sont essentiellement des hommes qui touchent des primes de la PAC, si j'ai bien compris. Là-dedans, j'imagine que les hommes ont quelques femmes qui traînent autour. Et vu que c'est assez rare qu'on arrive à vivre d'une seule activité agricole, je pense que c'est important de cerner la place de l'élevage dans une composante de revenus plus global au niveau des cellules familiales pour justement mieux comprendre les stratégies des uns et des autres et peut-être aussi la place des femmes dans ces systèmes un peu compliqués.
Merci.
Merci.
Peut-être vous, monsieur.
Oui, pour te répondre, on est en train de réfléchir. On est en train de... Pardon. C'est mieux comme ça. On est en train de réfléchir comment... parce que la collaboration, ce n'est pas unidirectionnelle. On a vu qu'avec les informations qu'on peut collecter de l'écoute anthropologique, Santiago peut l'utiliser à l'instant. Mais je crois qu'il faut que toutes les données qu'il a collectées dans les échantillonnages, il faut qu'il traite ces données. Et après, il faudra faire un mélange je sais pas comment dire ça, pour comprendre mieux comment se déroule, comment les bergers font la gestion des alpages. Alors, je ne sais pas si c'est la balance de direction, mais...
Donc il va faire une thèse en 3 ans et toi en 6 ans.
Mais ça va dépendre du temps pour analyser les données.
Je voulais répondre.
Et moi aussi, pour répondre un peu à Jeff aussi, quand je suis arrivé sur le terrain, les premières conversations qu'on avait avec les bergers, je voyais que toutes les pratiques étaient les mêmes, qu'il n'y avait pas d'homogénéité. Et je me suis dit, waouh, je n'ai pas de thèse parce que si je n'ai pas notre variable explicative, je n'aurai pas de divergences dans la communauté végétale. Mais au fur et à mesure, on commençait un peu à avoir un peu les narratives différentes de chaque berger à l'aide des anthropologues de l'équipe. Et là, tu commences à avoir des petites différences qui sont en fait des différences très grandes quand même dans la manière qu'ils les gèrent. Et ça, c'est lié aussi à les choix ou les règles qu'ils ont mis en place. Par exemple, ici, sur les communs, il y a différentes dates d'entrée. Avant les premières mois, les bergers ne pouvaient pas entrer. Ça, c'est la partie théorique. Mais on était arrivé sur le terrain, on a vu quand même des bergers qui étaient sur les alpages avant les premières mains. Mais ça, c'était plutôt les cas de Castries et Santiago, parce que là, il y a moins de sanctions pour les bergers qui ont avant. Et à Pontones, et ça, c'est aussi c'est décrit ça, mais il va falloir voir si c'est vraiment comme ça qu'ils gèrent les alpages. Mais à Pontones, c'est plutôt ici au nord, et là, les bergers vraiment n'entrent pas avant les premières mains aux alpages. Et ça, c'est une des premières règles qu'on a vues, et c'est très clair là où on sent. Et même si c'est officiel, les premières mai, ceux qui font la longue transhumance, qui dure 7 jours, il arrive plutôt fin mai, un mois de décalage, et il y a beaucoup, beaucoup de transhumances qui font la longue transhumance en Santiago et à Pontones. Mais par contre, à Castille, il y a moins de bergers qui font la longue transhumance, donc la plupart des bergers, à partir des premières mai, ils sont là. Par exemple, là, c'est grosse différence qu'on a vous, qui on espère avoir un peu les effets sur la végétation. Et on a vu beaucoup de complémentarités entre l'agriculture et les bergers, mais c'était pas plutôt au niveau familial, parce que c'était une famille de bergers, mais il y avait des familles, les voisins peut-être, qui étaient des agriculteurs, et il y avait beaucoup d'entraide entre eux. Par exemple, là, ils utilisent beaucoup les résidus des feuilles des olives. Là, il y a beaucoup des olives dans les terres plates. Je ne sais pas si vous connaissez Jaén, mais c'est un océan des olives. Et ils utilisent beaucoup, beaucoup les feuilles. Mais c'est des autres familles, plutôt agriculteurs, qui, entre eux, il y a beaucoup de communication. Mais les femmes des bergers, en fait, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils n'étaient pas agriculteurs. Mais ils étaient quand même beaucoup dans les reproductions, la transhumance, ils étaient beaucoup ensemble.
Alors, c'était justement sur cette carte, c'est une question un peu naïve, mais vous êtes parti de la notion de commun et vous montrez une carte extrêmement morcelée. Et dans quelle mesure ces alpages représentent des communs ? Et c'est vraiment une question naïve, pas du tout. Ma manière de lire cette carte, c'est qu'il y a des espaces qui sont occupés par des gens et ces espaces sont extrêmement particuliers et morcelés. Et qu'en fait, qu'est-ce qui fait commun pour vous, hein, dans cette manière assez parcellaire de gérer le territoire ?
Oui, il y a, on peut voir une couleur verte, rouge et bleu. Ce sont les trois communautés
chaque communauté des bergers a sa propre association de bergers. Donc, ils mettent les règles et sanctions à travers de ce type d'association. Mais à la fois, c'est tout moissonné. Parce que l'usage de chaque zone de pâturage pour chaque berger, l'usage est traditionnel. Même à la fois, dans chaque association, les bergers essayent de collaborer entre eux. Donc, ça, c'est la, je vois que ça, c'est l'idée de commun entre les bergers, toute la collaboration qu'il y a dans chaque association. Alors, je sais que c'est ailleurs.
Et aussi, il faut ajouter que dans chaque boule jeune, il n'y a pas forcément qu'un berger, parfois il y avait deux ou trois, parfois ils se mettent d'accord entre eux, parce en sorte qu'il n'y a qu'un berger de Binon, par exemple, s'ils sont deux dans une unité pastorale, donc c'est diviser un peu les tâches, parce que sinon, vous voyez bien que si tu es seul dans une unité pastorale, vous n'avez pas de congés, parce que les moutons doivent toujours manger. Et ça, c'est un vrai problème entre vous, comme avoir des dimanches, par exemple. Pour nous, c'est évident, pour vous, ce n'est pas très évident, mais essayez quand même de gérer de manière collective les unités pastorales, parfois. Parfois, il y avait des bergers qui étaient toujours seuls. Et aussi, ça, c'est l'effet d'un truc pratique, la division des zones, des unités pastorales, parce que si, un des gros problèmes qu'on a vu, c'était le mélange de troupeaux, et après, les diviser, c'était très difficile pour eux. Donc, parfois, ils se divisaient pour ne pas les mélanger. Et ça, c'était une des pires tâches qu'ils devaient faire. Et parfois, on les a aidés à diviser un troupeau. Parce que là, ici, il n'y a pas de... Bien sûr, il n'y a pas de défense. De barrières. Il n'y a pas de barrières. C'est un continu de partout.